Boulevard 102.1.
Mais j'avoue que mettre des gants blancs pour ce genre d'exercice, c'est une idée qui ne me viendrait pas.
Jusqu'à 14h, on en jase.
On en jase, ton émission du midi, de midi à 14h avec Jeff Fortin et Pascal CV. Rendu à cette heure-là, 13h03, des fois tu vas quitter la voiture pour retourner au bureau, t'es allé te chercher un petit lunch au service à l'auto, viens télécharge l'application Boulevard 101 sur les App Store et Google Play Store, ça va te permettre de nous écouter même rendu au bureau ou sur notre web radio blvd.fm. Se retrouve également les meilleurs moments, la prochaine entrevue va se retrouver justement dans nos meilleurs moments. En cachette, tu veux voir notre petite bête à ton bureau? Ben twitch.tv, /BLVD, /FM. Ou si jamais tu es en télétravail, un petit haut-parleur intelligent, écoutez BLVD. Et c'est fait, tu nous entends, autre que par ta radio hertzienne. 418-971-101 pour réagir. On a un invité de marque pour la prochaine dizaine de minutes, c'est-à-dire le ministre de l'Immigration au niveau de la Coalition Avenir Québec, Jean-François Roberge, qui a donné son appui à Christine Fréchette dans la course à la chefferie ce matin. Monsieur Roberge, merci beaucoup pour votre disponibilité en plein caucus de la CAQ à Trois-Rivières.
Ça me fait plaisir. Là. J'ai quitté le dîner avec le caucus, l'équipe, pour aller avec vous autres, mais comme on dit, la course à la chefferie de la CAQ, on en jase. Fait que je suis content d'être avec vous autres pour en jaser.
Pourquoi vous avez quitté? Parce qu'habituellement, les politiciens nous disent non quand ils sont occupés. Quel avantage ça vous donne aujourd'hui, M. Roberge?
Mais honnêtement, on avait une heure et demie de dîner. Là.
C'était trop long, c'était plate. Ça
J'avais
vous donne de l'air.
Mais, même... donné, ça me prenne une excuse.
Ben, c'est ça. Vous avez bien fait d'accorder un petit 10 minutes à l'émission On en jase. Ça va être plus divertissant là, que vos collègues que vous entendez depuis ce matin. Là.
Peut-être. Je vous écoute.
Monsieur Robert, j'avais donné votre appui à Christine Fréchette ce matin dans la course à la chefferie au détriment de Bernard Drainville. Pourquoi appuyer Christine Fréchette?
Je vous dirais que ça a été le fruit d'une bonne réflexion. Christine Fréchette, ça fait longtemps que je la connais. Je travaille avec elle, évidemment, depuis 2022, depuis la dernière élection. Mais Christine et moi, on s'est rencontrés professionnellement dans la vingtaine, alors qu'on était même dans les associations étudiantes ensemble. Donc, on se recroisait de temps en temps. Et ben là, dans la dernière semaine, j'ai eu plusieurs conversations avec elle, approfondies. Je voulais voir là, comment elle voyait l'avenir, qu'est-ce qu'elle envisageait pour la Coalition Avenir Québec. Puis honnêtement, je l'ai senti pleinement investi à faire avancer les idées de la Coalition Avenir Québec. J'ai pas senti qu'elle essayait de me vendre soit la volet économique ou soit le volet identitaire. J'ai senti qu'elle réellement elle incarnait ce qu'est la CAQ, c'est-à-dire justement là fierté, donc on défend notre identité, prospérité, c'est-à-dire que bien sûr qu'on favorise le développement économique, efficacité, c'est-à-dire qu'on n'a pas peur d'être au centre droit puis de faire ce qu'on a à faire. Elle incarne ça dans sa manière de parler. À un moment donné, j'ai raccroché avec d'un de mes appels. Puis je me suis dit à moi-même, bon, c'est clair, c'est notre prochaine chef, puis je dois l'appuyer.
Donc, vous êtes sûr d'appuyer Mme Fréchette. Si, advenant le cas, c'est M. Drainville qui remporte, vous allez reconnaître assurément sa position en tant que leader du parti. Est-ce que ça se déchire un peu à l'interne ou ça se passe somme toute assez bien? Parce qu'on sait, là, c'est quand même quelque chose qui peut diviser une course à la chefferie.
Je précise que évidemment que je veux me rallier au choix des militants.
C'est pour ça que je l'ai nommé, pour pas prendre votre temps.
Je le précise, là, vous l'avez dit, vous avez raison, mais je veux le répéter moi-même. Là. Oui, j'appuie Christine Fréchette, mais je c'est pas contre Bernard Drainville, avec qui j'ai eu plusieurs conversations, puis avec qui j'ai beaucoup d'atomes crochus. Si les militants choisissent Bernard Drainville, on va y aller avec Bernard. Et je vous dirais que c'est beaucoup l'ambiance en ce moment. On est content d'avoir ces deux candidats-là. On est content d'avoir l'occasion de brasser des idées avec une course à la chefferie. C'est sûr qu'ils vont se distinguer. À certains égards, évidemment, il y a des points de convergence. On est dans la même famille politique, c'est sûr. Mais il va y avoir un brassage d'idées. Ça va nous permettre de nous renouveler. Puis je pense que les Québécois sont dus pour un brassage d'idées. Pas avoir peur de remettre des choses en question. Ça va être positif. Ça va être positif. Convaincu de ça.
Est-ce qu'il y a une aile rouge et une aile bleue au sein de la CAQ? Parce qu'on
ça,
a
tu
beaucoup,
veux savoir.
Ouais,
hein?
Ben, on a beaucoup parlé de ça dans les médias en disant « Ah, Christine Fréchette représente l'aile rouge, Bernard Drainville représente l'aile bleue » et peut-être à tort ou à raison, on vous associe à l'aile bleue, l'aile un peu plus nationaliste slash souverainiste. Est-ce que ça existe vraiment, ces deux ailes-là, au sein de la CAQ?
Pas vraiment. Ça, c'est une affaire d'analyste, de commentateur. Puis, les gens aiment ça, mettre les gens dans des petites cases, dans des petites boîtes. Oui, je suis nationaliste, certain. Je suis ministre de la langue française, puis je suis tellement fier de ça. Je m'occupe de la laïcité. Là. J'ai un projet de loi pour renforcer les principes de la laïcité. Puis, je suis très content de ça. Puis oui, je défends notre identité avec l'immigration, mais je ne suis pas que ça. Je me suis occupé de l'éducation pendant 4 ans, de l'enseignement supérieur pendant presque 2 ans. Avant de m'impliquer en politique aussi, j'avais été dans des organismes, je défendais les principes des saines finances publiques, de la lutte au déficit. Donc, oui, je suis nationaliste, mais de dire « Ah, donc je me soucie pas de l'économie parce que je veux défendre la nation », puis d'opposer ces deux choses-là, je dirais que c'est plus quelque chose là, qui aime les gens. Ça permet de remplir du temps d'antenne et de faire bien des chroniques. Là, mais dans la vraie vie, on peut être les deux. Là.
On aime ça, les petites chicanes comme ça, les chroniqueurs.
C'est correct. Parle pas le Georges.
Ça fait quelques années que vous êtes dans des postes ministériels. C'est des postes souvent assez convoités. Là, la CAQ s'effrite. Là. On ne peut pas dire le contraire. Personne ne pourrait non plus le dire sans qu'on ne pense pas qu'on manque d'honnêteté à ce niveau-là. Donc, il y aura défi de rassembler. Il y aura un défi aussi de trouver les bonnes têtes aux bons endroits. Vous êtes encore dans un poste ministériel. Aux prochaines élections, vous souhaitez y rester?
Bien, je veux d'abord être candidat. Moi, c'est sûr, je veux être candidat dans mon comté, Chambly, que je représente depuis 2014.
Assurément.
Donc, il faut d'abord représenter les citoyens. Avant d'être ministre de quoi que ce soit, on est député d'abord et avant tout. Je l'ai été 4 ans dans l'opposition, puis c'était pas une honte, c'était une fierté pour moi. Puis après ça, on verra ce que les gens disent. Est-ce qu'ils m'élisent dans Chambly? Est-ce que je fais partie d'une formation qui est au gouvernement? Moi, je pense que ça se peut. Je pense que les Québécois tendent l'oreille en ce moment. Ils avaient arrêté de nous écouter. C'est le diagnostic qu'a fait notre premier ministre. Il a dit, ouais, là, comme un référendum pour ou contre François Legault, il y a une usure du pouvoir. Il a décidé de se retirer. Humainement, j'ai trouvé ça difficile, mais j'ai compris son cheminement. Et maintenant, je pense que ça ouvre la porte à un renouvellement pour la coalition Avenir Québec. Pas juste changer de chef, mais brasser des idées.
Okay.
Est-ce que le défi est là? Absolument. Mais je n'ai jamais reculé devant un défi.
OK. Alors, je vais changer mes questions parce que je vois très bien que ouais, vous n'allez pas répondre à ça. Si je vous posais 2 questions bien précises. La première, on a besoin de quoi au sein de la CAQ en ce moment? Des entrepreneurs, des gens issus de la politique, des nobody qui n'ont pas nécessairement de notoriété, mais qui s'en viennent? Point d'interrogation. Et ma deuxième question à ce niveau-là, est-ce que ça va prendre probablement 4 ans avant de redresser la CAQ telle qu'on l'a connue auparavant?
Bien, à votre première question, on a besoin de quoi? On a besoin de se renouveler. Donc, et c'est ce qu'on fait. Il y a plusieurs personnes, même des ministres, qui ont déjà dit qu'ils ne seraient pas candidats à la prochaine campagne électorale, des députés aussi. Donc, forcément qu'il va y avoir un renouvellement, puis qu'il va y avoir des nouveaux candidats, des nouveaux députés qui arrivent d'un peu partout. À la CAQ, on a des gens qui sont députés, qui sont ministres, qui sont des entrepreneurs, des gens de toutes les régions. Moi, je suis enseignant, des gens qui arrivent du milieu de la santé, des gens de partout. Puis je crois qu'on va se renouveler encore avec des gens de partout. Après ça, votre question, c'est est-ce qu'on va falloir qu'on aille se renouveler dans l'opposition? Bien, je pense que non, mais c'est les électeurs qui vont décider, mais je pense que non. Je pense que cet hiver, ce printemps, avec la course à la chefferie, on va faire les remises en question qu'on doit faire. On va brasser les idées. On va changer de chef. On va garder notre ADN. Puis, je pense que les Québécois vont nous faire confiance à nouveau. Je ne peux pas en être certain à 100%, mais j'y crois.
Pour rappel, on parle avec Jean-François Roberge, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration pour la Coalition Avenir Québec. Monsieur Roberge, je mets votre chapeau de ministre de l'Immigration. La Ville de Montréal, le secteur économique, j'avais notamment Marie-Josée Morancy, Frédéric Boisvert, les PDG des 2 chambres de commerce de Lévis et de Québec en entrevue hier, réclament une clause grand-père sur le PEC. Est-ce que vous allez accepter d'émettre une clause grand-père sur les immigrants, justement, qui sont ici via le PEC et qui sont bien établis?
Bon, réponse rapide à leur demande, non. C'est-à-dire que je ne vais pas rétablir le PEC, qui est un programme qui est fermé, pour lequel on ne fait que traiter les dossiers qui ont déjà été soumis.
Mm-hmm.
Par contre, Il y a des gens qui disent, ben, c'est justement ça une clause grand-père. C'est des gens qui sont déjà, qui ont déjà été impliqués dans un programme, qui ont soumis leur dossier. On traite leur dossier dans ce programme-là avant de le fermer. C'est ça qu'on le fait. Mais ce que les gens demandent, c'est qu'ils pervertissent un peu le terme clause grand-père, puis ils disent, ben, les gens qui sont arrivés en 2021, qui ont travaillé pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, puis qui pensaient un jour déposer dans le programme PEC, maintenant qu'il est fermé, voulez-vous leur donner une clause grand-père et le réouvrir pour eux? À cette question, je réponds, ben non. Il n'avait pas soumis dans l'ancien programme. Il y a un nouveau programme qui est beaucoup plus puissant économiquement. L'ancien PEC, c'était premier arrivé, premier servi. On ne veut pas sélectionner les gens en fonction des pénuries de main-d'œuvre. On ne veut pas sélectionner les gens en fonction du manufacturier. On ne veut pas sélectionner les gens en fonction des régions. Le nouveau programme de sélection des travailleurs qualifiés, ça le dit, hein, programme de sélection des travailleurs qualifiés, nous permet de sélectionner les travailleurs qualifiés selon les régions. D'un point de vue économique, notre nouveau programme est beaucoup plus puissant, va nous permettre de répondre à la pénurie de main-d'œuvre.
Donc, si je vous entends bien, Bruno Marchand, maire de Québec, qui dit qu'il y a 13 000 citoyens présentement à Québec qui ont un emploi, qui se sont installés. Il y en a plusieurs qui ont la famille, une maison, payent des taxes municipales. Eux vont pouvoir se requalifier dans le nouveau programme.
Bien, il faut qu'ils appliquent. Je pense que la grande majorité ont appliqué dans le nouveau programme. S'ils n'ont pas appliqué, bien, c'est le temps. Ils vont aller directement sur le site du ministère de l'Immigration, déposer leur candidature pour qu'on puisse les sélectionner, leur donner ce qu'on appelle le certificat de sélection du Québec, la résidence permanente. Je vois des fois dans des journaux des témoignages de personnes qui disent « Ah, je n'ai aucune chance ». Puis là, je lis leur parcours. Ce sont des gens qui travaillent des fois dans le secteur manufacturier ou dans le milieu de la santé, dans la région de Québec, qui parlent français, qui ont une qualification. C'est des superbes candidatures. Il y a des très, très, très bonnes chances qu'ils soient sélectionnés.
Mais pourquoi,
si c'est pas
M. Roberge? Mais pourquoi,
en février ou en mars? Mais encore faut-il l'appliquer?
Mais pourquoi, M. Roberge, c'est si difficile actuellement? Ça fait tant parler, on voit des cas importants, on voit de la détresse humaine, de la détresse psychologique associée à ça. Si c'est simple, efficace, c'est la meilleure chose. Il n'y a pas quelque chose qu'on a mal ficelé, il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire autrement, qu'on aurait dû faire autrement. Tu sais, je me dis, si ça crée autant là, autour de nous, OK, il y a peut-être des facettes qui sont super bonnes, mais il y a clairement quelque chose qui ne fonctionne pas. Là. Même des maires de villes, de municipalités, des entrepreneurs lèvent la main.
Mais c'est parce qu'il y a des gens qui s'inquiètent aussi à juste titre parce que le gouvernement fédéral refuse de renouveler des permis de travail de personnes qui sont sur le territoire québécois. Là, des gens, vous avez dit, là, qui travaillent, qui parlent français, qui paient des impôts, mettez tout ça ensemble. Parce que Ottawa a décrété que une entreprise, par exemple, de 100 employés ne pouvait pas avoir plus que 10 travailleurs étrangers temporaires. Et on dit le seuil, c'est 10 %. Donc, si une entreprise de 100 employés a 15 employés, Ottawa, il dit, il y en a 5 là, pour lesquels je ne renouvellerai pas leur permis. Et là, les gens disent, mon Dieu, je suis à risque de devoir quitter, d'être expulsé par Ottawa. Puis là, ils disent, bien, au gouvernement québécois, vite, 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 donnez-moi la résidence permanente tout de suite. Ça presse. Sans quoi Ottawa m'expulse? Nous, ce qu'on dit d'abord, c'est Ottawa, arrêtez d'expulser le monde, renouveler les permis de ces personnes-là, laissez-nous le temps de traiter les dossiers, puis on verra au cas par cas si on est capable de leur donner la résidence permanente. Mais ce sentiment d'urgence, cette angoisse généralisée causée par le fait qu'Ottawa expulse du monde. Okay, le gouvernement québécois n'expulse personne. Soit il donne la résidence permanente, soit il la donne pas. Mais nous, on ne retire pas des permis de travail. Ça, c'est pas vrai.
D'accord. Merci beaucoup, M. Roberge, pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent caucus avec la CAQ, une bonne rentrée parlementaire et une très belle course à la chefferie.
Merci. Au revoir. Bonne journée, tout le monde.
Au plaisir de se reparler. Merci. C'était Jean-François Roberge, ministre de l'Immigration, la francisation et l'intégration. On a parlé de son appui à Christine Fréchette et également des problèmes en immigration à l'heure actuelle. Plusieurs entreprises craignent de perdre des employés.
On en jase jusqu'à 14h.